9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé, à votre bonne santé, ravi de vous retrouver. Vous le savez, c'est à votre sexualité le mardi avec Nadia Elbouga qui est avec nous. Bonjour Nadia.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes sage-femme et sexologue clinicienne. Bon, vous avez proposé un sujet aujourd'hui. Ah. Je ne peux rien vous refuser. Hein. C'est pas moi qui ai demandé, mais c'est vous. Donc, c'est notre émission de l'année.
Oui.
Nous allons parler des... alors avant on disait MST, mm-hmm. Les maladies sexuellement transmissibles. Maintenant, on dit les IST, ouais. Les infections sexuellement transmissibles avec nos invités.
Juste.
Alors, on verra pourquoi, justement, ça a changé de nom. Nous avons Anaïs Gomez qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes naturopathe.
Et oui.
Et le docteur Ramon Bassagagna est avec nous également. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Voilà, vous êtes médecin généraliste, vous êtes spécialiste des maladies éliminables. C'était votre passion, vous avez consacré plusieurs dizaines d'années de votre vie.
Oui.
Et c'était surtout très précurseur d'ailleurs, hein, comme concept.
Oui, effectivement. Nous avons commencé à y travailler en 1980. Voilà. Et nous avons travaillé sur l'amiante essentiellement. Et en particulier, le mésothélium, qui est un cancer provoqué par l'amiante. Et, alors, pourquoi ? Parce que, il y avait des chantiers navals, il y avait également des unités où on travaillait l'amiante, en particulier l'usine Eternit. Et nous avons trouvé quantité de patients avec de mésothélium, avec des pathologies respiratoires gravissimes, et qui sont morts. Quoi. Or, ça, c'était des maladies évitables, éliminables. Et nous avons travaillé pour éliminer l'amiante, justement, des ateliers pour les patients qui venaient nous voir. Par exemple, les dockers à l'époque transportaient les sacs d'amiante sur le dos. Et comme il faisait très chaud dans le sud, ben, ils faisaient la sieste près des sacs d'amiante. On imaginait la quantité de particules inhalées. Donc nous avons travaillé sur cela. Malheureusement, depuis, nous avons enterré pratiquement la plupart de nos patients. Voilà. On travaillait aussi sur... le travail en atmosphère confinée, par exemple chez les soudeurs, dans les hauts fourneaux, etc. Et depuis, en parlant avec Anaïs, justement, on s'est dit qu'il y a peut-être des maladies qui sont évitables et qui coûtent moins cher à prévenir. Parce que vous imaginez que la prévention du mésothélium, des cancers de l'amiante, des pathologies provoquées dans les hauts fourneaux, ça demande des budgets énormes. Or, on se dit, mais il y a des maladies évitables que l'on peut éviter et à un prix tout à fait infime. C'est les IST, les infections sexuellement transmissibles. Comment les éviter ? Ce n'est pas compliqué, il suffit d'informer. Et voilà, nous avons travaillé là-dessus et d'où ce petit livre sur les infections sexuellement transmissibles que nous avons voulu aussi simple que possible, pas du tout un traité sur les IST, on n'est pas du tout des spécialistes de ces infections, mais on sait un certain nombre de petites choses. Anaïs en tant que naturopathe, moi en tant que médecin qui en a vu de toutes les couleurs dans ce domaine.
Et de alors, toutes les odeurs aussi, chose peut-être.
Que nous savons, voilà, on est mis à la disposition de nos lecteurs et de nos lectrices.
Voilà, donc tous les deux, vous publiez un livre qui s'appelle « Les infections sexuellement transmissibles comme on ne vous en a jamais parlé » aux éditions Jouvence. Moi, je me méfie toujours, hein, quand on commence à me dire « comment on vous en a jamais parlé », en général, c'est « comment on vous en a toujours parlé ». C'est juste dans le titre. Alors, on va vérifier avec vous ce matin... que vous l'avez bien, que vous tenez votre promesse client.
Tout à fait.
Comme on dit. Alors déjà, vous commencez par balancer toutes les stars qui ont des IST.
Oui.
Alors donc ça déjà, c'est pas bien.
Oh. C'était déjà médiatisé.
Oui. Donc ça veut dire que c'est pas réservé, c'est pas réservé, voilà, même les stars...
Michael Douglas en a parlé lui-même. Hein. C'est pas réservé, exact.
Mais Michael Douglas, il avait un cancer de la gorge, non ?
Eh oui.
Oui.
Un cunni qui a mal tourné, peut-être.
Ah oui, dites-nous, Anaïs, comme vous aviez dit que vous n'en parlerez pas comme d'hab, c'est bien. Un cunni qui a mal tourné.
Eh oui.
Je croyais que c'était des papillomavirus qui s'étaient baladés dans sa gorge, moi.
C'est ça. Ramon, je te laisse expliquer.
Oui, tout à fait.
Comme on ne vous en a jamais parlé. Hein.
Oui, oui. C'est tout à fait exact. Et c'est lui qui a parlé. Lui, il a dit une MST, une maladie sexuellement transmissible. Bon, j'ai cherché quand même des documents pour ne pas dire une connerie, pardon, des bêtises. Et puis, effectivement, il a été en contact avec un papillomavirus, c'est classique d'ailleurs. Hein. Les papillomavirus infectent non seulement le col de l'utérus, la vulve ou la cavité vaginale, mais aussi le pénis, le rectum et la gorge. Les risques du sexe oral, c'est aussi le papillomavirus. Et je vous signale qu'actuellement, aux États-Unis, d'après les toutes dernières informations que j'ai lues, les cancers de la gorge provoqués par le papillomavirus sont en train de dépasser légèrement les cancers du col de l'utérus. C'est-à-dire qu'il faut faire gaffe, et surtout qu'on peut prévenir. C'est
intéressant ce que vous dites là et ce que nous montrent ces études, parce que justement, c'est corrélé avec le changement des pratiques ou en tout cas l'apparition de pratiques qui se sont standardisées et qui n'étaient pas forcément le cas à l'époque. Donc l'apparition de ces infections sur ces sites s'explique par des pratiques qui sont maintenant, on va dire, banalisées. Donc la fellation, le cunnilingus... les nommer.
Et pas toujours protégé aussi.
Voilà.
C'est ça. Absolument. Et on a d'autres exemples avec l'herpès.
Oui, parce que j'allais vous dire qu'en fait, effectivement, parce qu'avec le papillomavirus, on a l'exemple d'un virus qui a monté.
C'est ça.
Qui est monté. Oui. Et c'est pareil pour l'herpès. Avant, on avait clairement l'herpès génital et l'herpès labial. Et maintenant, on les retrouve.
C'est ça, en fait, on a deux processus inverses. L'un, c'est dégénitalisé pour se retrouver dans la sphère ORL. Et l'autre, c'est génitalisé pour se retrouver de la lèvre supérieure vers les lèvres plus bas situées.
Et en sachant bien, parce qu'il faut faire ça, hein, le bouton de sphère, c'est absolument pas une IST. Ce n'est pas une infection sexuellement transmissible.
À l'origine,
oui. Attention, hein, parce que j'ai vu combien de patients, de patientes, oh là là, il y a un bouton de fièvre, vous avez dit que... il faut faire attention. Si on a un bouton de fièvre et qu'on fait une cunnilingus ou une fellation, on peut transmettre son virus, son herpès virus, on peut le transmettre par contact entre muqueuses. Et à ce moment-là, ça va devenir une IST, effectivement, qui sera moins agressive que le virus, que l'herpès génital, l'herpès numéro 2. C'est le virus numéro 2 est moins agressif, mais ce sera quand même une infection génitale.
Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, ce n'est pas une IST, mais ça le devient. C'est ça que vous voulez dire.
Ça le devient et elle sera transmissible ensuite en tant qu'IST.
D'ailleurs, vous dites dans votre livre que la catégorisation de l'herpès, enfin du virus, donc HSV1 et HSV2, n'a plus réellement de sens, puisque maintenant, on le retrouve en fait sur les deux sites.
Vous expliquez un petit peu la différence des sites. Qu'est-ce que vous appelez le HSV1 et HSV2?
On va laisser Dr Ramon nous l'expliquer.
Oui. C'est pas compliqué, c'est qu'avant, nous avions l'herpès génital, et il y avait l'herpès, donc le bouton de fièvre banal. Ce sont deux virus légèrement différents. Seulement, il s'avère que depuis qu'il y a les pratiques orales, l'herpès génital peut devenir herpès labial. Et l'herpès labial, le bouton de fièvre banal, peut être, contaminant au niveau de la sphère génitale, tout bêtement. Ensuite, le devenir des deux est absolument identique. Peut-être l'herpès buccal un peu moins agressif au niveau des récidives, mais sinon leur devenir est identique et le traitement est identique également. Et on sait bien le traiter, mais surtout il faut surtout l'éviter. C'est tellement simple, et il suffit de ne pas avoir de pratique orale lorsqu'on a un herpès, un bouton de fièvre, quoi.
D'ailleurs, vous l'appelez la belle au bois dormant.
Y compris un baiser.
Mais oui, on peut le transmettre par un simple baiser, mais bien sûr.
Ouais. À noter que quand même l'herpès c'est très très fréquent aujourd'hui, hein, c'est hyper courant.
Tout à fait.
Oui, absolument.
Après.
Il est très fréquent et il faut faire attention parce qu'en cas de grossesse, il ne faut pas oublier qu'il peut être transmis au bébé. Et les gynécologues le savent, il faut savoir quoi. Hein. Et surtout que c'est là le problème des IST, c'est qu'on peut, le problème, non, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut les anticiper, les prévenir. Voilà. Et il suffit de traiter et surtout de prendre les précautions nécessaires.
Alors si je peux compléter ce que dit Ramon, avant on disait MST, aujourd'hui on dit IST, c'est l'OMS qui a trouvé que c'était plus juste, parce que MST, donc ce sont des maladies sexuellement transmissibles, mais ça implique que derrière, il y a des symptômes. Et en fait, c'est pas du tout ça. Ces maladies, ou maintenant dit infections sexuellement transmissibles, pourquoi infection ? Parce que effectivement, il y a l'infection, mais ça n'implique pas derrière constamment des symptômes. Ça veut dire que la plupart du temps, elles sont silencieuses. Et c'est là tout le drame de ces infections, c'est qu'on s'en rend compte bien souvent trop tard, et ça implique des stérilités, ça implique de grosses pathologies qui pourraient être évitées par une connaissance plus approfondie, et notamment de la jeunesse, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que moi, je suis de la génération SIDA, entre guillemets, où on ne sortait pas sans un préservatif. On a été très sensibilisés par SIDAction. Chaque année, on se mobilisait. Aujourd'hui, vous demandez à la plupart des jeunes si d'action, c'était quand on ne sait pas. Puis il y a eu tous ces événements politiques, la Covid et autres, qui ont balancé, qui ont relégué au second plan les IST. Et le problème, là, justement, il y a une étude qui, j'ai trouvé vraiment pertinente, mais aussi interpellante inquiétante. Ouais, c'est IFOP, donc l'Institut français d'opinion publique. En mars 2022, ils nous disent que 18% estiment encore que la pilule contraceptive d'urgence ou un produit de toilette intime peut empêcher la transmission du virus du sida. Donc, enfin, pas du sida, pardon, VIH, parce que le sida, c'est
la maladie.
C'est le cortège, c'est ce qui suit. Donc, vous voyez, déjà 18%. 34% des jeunes, donc on est sur 1002 personnes entre 15 et 24 ans, déclarent avoir utilisé systématiquement un préservatif lors d'un rapport sexuel. 34%, 9 points de moins par rapport à 2020. Vous imaginez ? 29% pensent, allez savoir pourquoi, qu'ils ont moins de risques que les autres d'être contaminés. Vous voyez ? Et là, je parle du VIH, qui est l'IST, entre guillemets, la plus connue. Alors, en ce qui concerne chlamydia, gonorrhée, où là, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est.
De quoi il s'agit ?
Vous imaginez bien qu'il y a un gros problème de communication, de prévention. C'est pour ça qu'on a écrit ce livre, pour que les parents avisés en parlent aux ados, que ce soit pour les ados et les pourquoi adultes. Pas les curieux, bien sûr.
Chlamydia, c'est la star de ce premier quart de 21e siècle. On parle des IST. Voilà, à votre santé jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Donc là, vous avez compris que ce matin, nous avons décidé de vous parler des infections sexuellement transmissibles différemment, comme vous en avez jamais entendu parler, avec le docteur Ramon Bassagna qui est avec nous au téléphone et Anaïs Gomez qui est naturopathe. Et vous avez écrit tous les deux les infections sexuellement transmissibles comme on ne vous en a jamais parlé aux éditions Jouvence. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une approche naturopathique des IST? qui pourrait n'être que sans la médecine allopathique, on va dire.
Non. Alors ça, j'insiste bien là-dessus. On passe obligatoirement par la case médecin. Et si vous avez un doute, vous n'allez pas voir votre naturopathe, vous allez voir votre médecin traitant.
C'est pour ça que je vous pose la question, que ce soit vraiment clair.
Clair.
Voilà, il faut consulter quoi qu'il arrive.
Consulter au moindre doute. En plus, bien souvent, c'est un thème que l'on n'ose pas aborder avec les parents, avec les proches. Donc, on peut parler en toute transparence avec son médecin en principe. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller, ou sa gynécologue, mais c'est important. Après.
Non, mais comme il y a beaucoup de modes, enfin, je parle notamment avec les huiles essentielles et toutes ces substances qui sont soi-disant très efficaces. C'est pareil.
Elles le sont, mais le naturopathe, j'insiste, et ça vaut pour tout, pour moi, la naturopathie, on est dans une idée de communication bienveillante, de complicité bienveillante.
La médecine intégrative.
Exactement, où en fait, la naturopathie est là pour potentialiser le traitement en cours, pour limiter ce qu'on appelle les effets iatrogènes, c'est-à-dire les effets secondaires. Et puis évidemment, s'il y a un vide thérapeutique, par une dynamique, ce qu'on appelle éthiopathogénique, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir la cause de la cause en travaillant le terrain, oui, on peut faire quelque chose en naturopathie. Par exemple, l'herpès, il peut y avoir des récurrences, on le sait. Là, effectivement, c'est plus le naturopathe qui va travailler sur le terrain pour éviter justement qu'il y ait une dépression du système immunitaire.
Parce que la fatigue et le stress.
Oui, c'est ça, exactement. Il y a eu d'ailleurs une étude, que je vous dise pas de bêtises, c'est le Johnson Center Space, donc au niveau de, c'est l'étude Johnson Center Space, je crois, sur la NASA, et qui s'est rendu compte qu'effectivement les astronautes avaient beaucoup plus d'herpès. Lors de leur voyage. Pourquoi ? Parce que justement, le système immunitaire est ébranlé. Et le stress, ce n'est pas que l'anxiété. Le stress, c'est une obligation de l'organisme à s'adapter à une situation. Donc, c'est là où le naturopathe va intervenir par l'alimentation, l'accompagnement. Pourquoi pas des huiles essentielles ? Mais on ne remplace en aucun cas le médecin. Et je le dirais que ça soit pour les IST comme pour d'autres pathologies. Par contre, effectivement, le naturopathe a son rôle d'accompagnement, de prévention qui est aussi indispensable.
Donc en fait, les deux ne s'opposent pas.
Non,
elles se complètent.
Exactement, elles doivent se compléter, mais en toute transparence. Voilà, ce n'est pas un combat, et pour le bien-être du consultant, de la personne qui vient, non.
Non, je dis ça parce qu'aujourd'hui, comme il y a beaucoup de recherches sur Internet qui sont faites d'apprentis médecins qui font de l'automédication,
qui s'automédique,
pour venir à bout de certains virus, c'est pas, voyez.
Non, et puis alors souvent aussi, je vois de la naturopathie allopathique. Alors ça, c'est très drôle, c'est-à-dire j'ai mal là, qu'est-ce que je prends comme huile essentielle? J'ai mal là, qu'est-ce que je prends comme plante? Ben non. Pas du tout.
C'est pas le principe de la naturopathie, d'ailleurs.
C'est pas le principe. D'ailleurs. C'est, tu as mal là, ben, pose-toi la question. Surtout un herpès, quand il y a une récurrence, même le papillomavirus, lorsqu'il est installé, c'est bien de se poser la question où j'en suis là tout de suite, émotionnellement, physiquement. Est-ce que je suis à 100% de mes capacités? Bien souvent, ça, je le demande. Et souvent, on me répond, je suis à 60, 70% de mes capacités. Et ça me fait rire parce que souvent je demande si ta voiture est à 70% de ses capacités, qu'est-ce que tu fais? Ah ben je l'amène immédiatement chez le garagiste.
Donc le spécialiste de la voiture, voilà, de la réparation de voiture.
Pourquoi la voiture a plus d'importance que notre propre santé?
Oui.
Mais voilà, non, c'est un accompagnement. Et c'est le but, en fait, la naturopathie, c'est d'accéder à un équilibre d'autorégulation. Et puis le médecin est là pour réparer la casse.
Et là où la naturopathie est intéressante aussi, c'est que son travail est plus souvent en amont, donc dans la prévention, plutôt que dans la guérison.
Exactement. Pour revenir encore à la voiture, on a cette habitude d'amener sa voiture une ou deux fois par an à la révision, en entretien. Et bien, il serait intéressant aussi, une ou deux fois par an, d'aller voir son naturopathe en prévention, et puis d'aller voir son médecin, bien sûr, pour faire des analyses, pour voir aussi que la machine fonctionne bien, mais faire la révision des 20 000 km chez son naturo et chez son médecin une fois par an au moins, c'est intéressant.
Alors, il y en a des plutôt qui sont très à la mode, ce sont les microbiotes. Et nos organes sexuels ont des microbiotes. Et c'est là où j'ai trouvé votre livre très novateur, puisqu'effectivement, vous parlez des microbiotes de nos organes sexuels et comment les booster, finalement, et surtout, comment intervenir une fois qu'il y a une IST, une infection sexuellement transmissible. Alors, on va parler du microbiote vaginal, par exemple, Nadia.
Voilà. Tout à fait. En fait, il y a des germes qu'on appelle des germes saprophytes qui sont là, en fait, pour participer au bon fonctionnement donc du vagin, mais des autres organes également génitaux. Vous en parlez très bien dans votre livre. Vous dites que, justement, ce microbiote donc localisé au niveau du vagin est important à maintenir, à entretenir pour justement renforcer la lutte contre un éventuel germe, virus, bactérie qui viendrait en fait s'y loger.
Tout à fait. Et puis on s'est aperçu que les cancers les plus virulents se développent justement chez des personnes qui ont un microbiote vaginal pauvre en lactobacillus, par exemple. Mmh. Alors par contre, je vous dis pas en prévention de prendre un probiotique et je suis immunisée contre une IST. Hein, on est bien d'accord. Hein, je préfère le surligner.
Bien sûr. Par contre, de s'y intéresser pour rétablir un équilibre au niveau de ce qu'on appelait la flore, finalement, vaginale, qu'on appelle maintenant microbiote, puisque c'est plus intégratif, c'est le cas de le dire. Par contre, là où moi, j'ai un peu tilté dans le livre.
C'est bien.
Concernant le microbiote.
Méfiez-vous, quand elle tilte un peu, en général, c'est qu'elle a tilté beaucoup.
Non, mais j'ai tilté positivement, en fait.
Bon.
C'est que vous parlez, ce qui est très bien, alors pour une fois, je ne vais pas me plaindre, vous parlez du microbiote vaginal et donc s'intéresse enfin au sexe des femmes.
Bien sûr.
En revanche, il y a un microbiote quand même masculin.
Bien sûr, oui.
Et il est très, très, très peu cité, celui-ci.
Oui, c'est vrai. Parce que effectivement, parce que c'est vrai que les projecteurs sont surtout sur
ce qu'on voit pas.
Le cancer du col de l'utérus, mais effectivement, ce microbiote est aussi au niveau de la région pénienne,
oui,
absolument,
tout à fait.
Au niveau aussi de notre gorge, qui peut être une ruche à gonocoque, ça peut effectivement.
Alors, gonocoque pour tout le monde, faut expliquer. Hein.
Oui, Ramon, je te laisse intervenir.
Oui, je suis entièrement d'accord. Hein.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi correspond le gonocoque par rapport à l'IST, au gonorrhée,
notamment. Oui, mais surtout quand on dit que votre gorge ne soit pas une réserve de gonocoque, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire?
Oui. Oh là là, oui.
Alors, c'est...
Ou pas, sinon c'est comme vous voulez, Ramon.
Oui. Alors, le gonocoque est responsable d'une affection qu'on connaissait beaucoup dans les années 70-80, qu'on appelait la chaude pisse.
Mm. Ah, la fameuse, la bléno.
La bléno,
c'est ça. La blénorragie. Mm. Oui. Seulement, on s'aperçoit que ce gonocoque responsable de la blénorragie, de la chaude pisse, de la ch'touille, ce sont les termes qu'on utilisait populaire. Quoi.
Oui. Oh, la ch'touille. Oh, les vieux souvenirs. Tu sais, quand on disait, ouais, t'as la ch'touille.
mais c'est ça. Et on en riait, moi je veux bien, mais c'était redoutable. Mm. Moi j'ai vu de véritables drames personnels dans les couples, dans ma vie, dans mon professionnel en tant que médecin. De véritables drames chez les personnes infectés, présentant des blénorragies, des gonorrhées, des choses pisse, quoi. Alors que c'est très facile à prévenir, c'est très facile à guérir. Alors, quand on parle de gorge, ruche à gonocoque, évidemment, si on fait une fellation alors qu'il y a un gonocoque dans la muqueuse pénienne, et évidemment, le gonocoque va passer dans la gorge. Mm. Et à ce moment-là, nous aurons une gonococcie, une au niveau de la gorge, qui va être transmise à un autre partenaire, si jamais il y a des rapports oraux avec quelqu'un d'autre. Quoi.
Alors, c'est-à-dire et que ça se passe par un baiser?
Oui.
De muqueuse à muqueuse, oui. Oui.
D'accord.
Mmh. De muqueuse à muqueuse.
Et ça reste fait. Combien de temps dans la gorge?
Alors là, c'est très difficile à dire. À mon avis, ça va y rester tant que c'est pas guéri.
Tant que le système milieu est favorable aux germes.
Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça disparaît pas
spontanément,
c'est ça que je voulais vous dire.
Non, ça va pas disparaître spontanément. Non. Et le gonocoque est très sensible à l'air libre, par exemple, donc, à mon avis, va disparaître très rapidement sur un sextoy, par exemple. Mais il ne disparaîtra pas dans la gorge.
Il a le milieu pour se développer, donc voilà. L'humidité, la température idéale, donc il va s'y loger agréablement.
Et en plus, il y a peu de symptômes dans la gonorrhée.
C'est ce qui est très vicieux,
dans la gorge.
C'est quoi? C'est une bactérie, c'est ça le...
C'est une bactérie encore. Oui. Et comme c'est une bactérie, c'est pas un virus, donc il est sensible aux antibiotiques. Et seulement, on commence à s'apercevoir qu'il y a des résistances à certains antibiotiques. Mais bon.
Heureusement qu'il y a les phages.
Oui. Comment?
Heureusement qu'il y a les phages et les macrophages.
Ah oui. Heureusement, oui.
C'est un bon élève, hein, Philippe. Et... Il a bien lu. Hein.
Ah oui. Et c'est facile à venir, il suffit de mettre un préservatif et on n'en parle plus, quoi.
Ou une digue dentaire.
Le mieux, c'est quand on a une... Parce que c'est très facile à diagnostiquer. Mm. Les garçons, c'est simple comme bonjour. Le matin, au réveil, il y a comme une petite goutte de pus au bout de l'urètre. C'est la goutte de pus matinale. Et puis, quand on fait pipi, ça brûle. Mais ça brûle vraiment, hein, chez le garçon. Autrefois, on parlait de douleur à titre de coupure de rasoir. C'est un diagnostic très facile. C'est un diagnostic clinique. On n'a pas besoin de faire des prélèvements, des prises de sang et des je ne sais quoi. Et une fois qu'on a décrit ces symptômes au médecin, il va prescrire l'antibiotique et le tour est joué. Et ça va très vite.
En pensant à traiter le partenaire.
Oui. Comment?
Je dis en pensant à traiter le partenaire. Ou
absolument,
les partenaires.
Il faut traiter le partenaire. Ouais. Et tous les partenaires avec qui on a eu des rapports quand même. Hein, parce que si on traite uniquement le couple et qu'ensuite l'un des deux a des rapports avec quelqu'un qui avait déjà été en contact, étant donné qu'il n'y a pas d'immunité acquise avec le gonocoque, eh bien... on recommence à zéro, quoi.
Bien, on parle de ces infections sexuellement transmissibles ce matin. On rappelle le titre de votre livre qui vient de sortir, Les infections sexuellement transmissibles comme on ne vous en a jamais parlé aux éditions Jouvence. Et c'est le pari qu'on prend avec vous ce matin jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, on part du principe avec Nadia Elbougal, ça fait partie aussi de notre mission de vous informer. On va parler des IST. Alors évidemment, ça fait pas super plaisir de parler des IST. Ça fait pas plaisir de parler du dépistage du cancer du côlon. Il y a plein de sujets dont ça fait pas plaisir de parler. Mais de temps en temps, il faut faire des piqûres de rappel. Et on a invité ce matin le docteur Ramon Bassanaga qui est avec nous, qui est médecin généraliste, et Anaïs Gomez qui est naturopathe. Et tous les deux, ils ont écrit un livre qui s'appelle « Infections sexuellement transmissibles » comme on ne vous en a jamais parlé aux éditions Jouvence. Nadia, vous avez levé le doigt, donc
oui.
Maintenant je vous donne la parole parce que vous avez été sage.
Ah, vous avez vu ça? Ouais. Oui, je rejoins en fait ce que vous venez de dire en introduction parce que c'est fondamental. En fait, il faut savoir que les virus, les bactéries, enfin tous les germes n'ont ni nationalité, ni ethnie, ni culture, ni religion, ni quoi qu'est-ce. Donc il faut sortir de cette hypocrisie généralisée où il y a encore des personnes qui pensent là en 2022 qu'elles sont complètement éloignées de toutes ces problématiques. Non, en fait.
On a quand même eu une étude qui nous disait que la circoncision faisait qu'il y avait moins d'IST.
Alors,
que les personnes circoncises attrapaient moins d'IST.
Alors, l'étude en question, effectivement, démontre que les hommes qui sont circoncis, en fait, seraient... alors, je ne vais pas dire protégé, hein, mais serait.
J'ai pas
dire...
employé protégé justement non, à dessein, Nadia.
Non, mais il faut faire très attention à ce type d'études, parce que le fait de ne pas avoir de prépuce ne protège en rien des IST, absolument en rien. Donc, il faut toujours reprendre. D'ailleurs, vous le dites très bien dans votre livre, hein, les études, il faut les recontextualiser, aller creuser que dit cette étude réellement, comment le pool de personnes sondées, interviewées, enquêtées, qui sont-ils, comment, qu'est-ce qu'on a recherché exactement. Donc, moi, je me méfie de ces conclusions hâtives. Alors, effectivement, on sait que en Amérique du Nord, la circoncision est très pratiquée, en Afrique également subsaharienne, très pratiquée. Dans cette optique justement de diminution de transmission, mais ça ne veut absolument pas dire que les personnes, que les hommes en l'occurrence circoncis, ne peuvent pas être porteurs d'un germe ou être contaminés. Attention, lisons correctement les études.
Bien, vous dans votre livre, vous en avez sélectionné 7. Hein. Oui. Parmi les plus courantes, bon après il y en a d'autres que vous avez laissé de côté. Hein. Quelle est la différence tiens entre les sushis et l'hépatite B? Parce que vous avez dit qu'on en parlait autrement. Alors,
oui.
Est-ce que vous allez dire lisez notre livre ou
Non, on a dit que simplement la recette était très simple, voilà. C'est-à-dire un virus et un foie, le sushi, du riz et du poisson. Voilà, il faut deux ingrédients.
Ah, c'est tout, il faut juste deux ingrédients.
Voilà, deux ingrédients. Et puis, ben, ma foi, après, advienne ce qu'il adviendra. Et c'est vrai que l'hépatite, en plus, l'hépatite B, le virus peut rester jusqu'à 7 jours actif, hein, hors de l'hôte. Hein. Donc, c'est vrai que c'est, on peut le dire, hein, c'est une saloperie. Hein,
Oui, parce qu'on pense à IST, mais l'hépatite B, ouais. c'est une IST.
Et puis surtout, c'est que si la personne, on va dire, a géré son hépatite B, si le système immunitaire a fait son boulot, il peut y avoir des copies de l'ADN de ce virus qui vont rester hein, dans le foie. Et puis si un jour on a un pépin de vie, un problème oncologique, par exemple, et qu'on est amené à faire on ne sait jamais, une chimiothérapie, eh bien, ça peut réactiver le virus, vous voyez. Ou vous êtes en contact avec le VIH qui va générer une dépression immunitaire, va réactiver le virus. Donc, bien souvent, on se dit, oh, les hépatites B, on en guérit. Et j'entends aussi souvent, et Ramon l'a entendu, hein, oh, mais maintenant, on guérit. C'est rare que les gens parlent de VIH, ils me disent sida, mais on guérit du sida maintenant. Non.
Mais on l'a vu avec le Covid, tout le monde est devenu infectiologue. Les gens se sont passionnés pour le virus. Ils avaient tout compris, blablabla. Et finalement, comment se fait-il que pour les IST, qui sont quand même beaucoup plus communes, ça les intéresse pas?
Alors là.
Parce que ça touche un tabou qui est celui de la sexualité. Donc clairement, alors le Covid, c'est plus où situer. Et donc pour le coup, là, on s'en donne à cœur joie. Les IST vont aller convoquer un domaine qui est celui des sexualités et donc qui reste encore, et quelle que soit la société, même la plus moderne, va toucher l'intimité des gens. Et donc pour le coup, il y a tout de suite levé de bouclier sur ces questions-là. Et cette idée, en plus, qui circule toujours, IST, alors il faut sortir aussi de ces clichés-là, IST égale coureur ou coureuse de jupons.
C'est ça.
Donc il y a encore cette idée-là. On a vu l'exemple avec l'hépatite B, c'est pas forcément le cas. Donc il faut sortir de ces raccourcis. Hein, c'est ça. Ça peut toucher tout le monde.
Et si je peux compléter, là j'ai trouvé une étude aussi de l'Institut National du Cancer, elle date de 2020. Qui dit que près de 80% des personnes seront infectées par le virus HPV au cours de leur vie. 80%.
HPV, c'est
le virus du papilloma. La plupart des infections, écoutez bien, ont lieu lors des premiers rapports sexuels. Oui. Donc on n'est pas du tout sur un problème d'infidélité, justement, on est sur
les premières expériences,
les premiers ébats avec. On croit en l'amour bien souvent, on a des cœurs dans les yeux et puis on oublie la capote dans la poche. Et donc effectivement, dans 90% des cas, le virus aura disparu dans les 2 ans. Mais qu'est-ce qu'on en fait des 10% qui restent? Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a l'infidélité, et ça c'est vrai, mais bon, malheureusement, ça c'est... On peut pas savoir ce que fait le partenaire. Mais en tout cas, c'est sûr que pour la personne qui pourrait être infidèle, c'est bien de penser à l'autre et peut-être de faire des tests. Et puis peut-être quand un couple se rencontre et qu'il voit qu'il y a une certaine stabilité dans la relation, ben peut-être aussi se faire tester. Ça peut être intéressant. Ce que ne font pas forcément
tous
les gens.
Couples, exactement. Non. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être intégré dans l'éducation aux sexualités. C'est que finalement, discuter à deux d'une relation, deux relations ensemble, moi je ne vois pas en quoi ce serait malvenu ou mal. Alors on va effectivement sortir les clichés de oui, mais on n'est plus romantique, on n'est plus là, on rentre dans... Mais oui, mais la vraie vie en fait, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on se dépisterait facilement finalement pour une maladie quelconque et pas dans le cadre d'une IST? Ça ne veut pas dire qu'on remet en cause le passif sexuel de l'autre, c'est tout simplement on part ensemble à zéro. Donc si on y a un contrat de confiance entre nous, alors testons-nous en fait. Où est le problème?
Qu'est-ce que tous les deux qui êtes sur le terrain depuis longtemps, qu'est-ce qui fonctionne en termes de prévention comme message? Est-ce que c'est pas un peu l'échec des communicants?
Alors c'est marrant parce que c'est vrai quand on regarde les... Enfin moi je me souviens jeune, je regardais Beverly Hills, Brenda, avant d'avoir une relation sexuelle avec Dylan, ça a mis une saison et demie. Puis finalement, on n'a rien vu.
Il n'y avait pas l'intégrale, c'était toutes les semaines.
Donc pour vous dire... Après, pour la génération d'après, il y a eu Gossip Girl. Bon, c'est... Et alors maintenant,
il y a
Elite. Alors là, c'est dans tous les sens. Ça veut dire que les séries sont de plus en plus libérées. Et paradoxalement, c'est-à-dire que nous, à l'époque de Beverly Hills, on avait les campagnes anti-VIH, etc. Et là, maintenant, on a Elite, mais on n'a plus les campagnes de prévention.
Il y a vraiment un décalage.
Donc, il y a un gros décalage. Les jeunes en savent parfois bien plus. Là, je vois, j'ai reçu un mail de la directrice de mon école qui disait que les gamins de CM2, certains connaissaient des sites porno. Bon, adulte, je ne connais pas, c'est mon Dieu. Donc ça montre que quand même, la sexualité, on en parle, elle est vulgarisée, elle est accessible. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas la question, mais ça montre qu'elle est là. Donc c'est bien aussi que parallèlement, il y ait de la prévention. Et ça, ça pêche.
Mais c'est quoi la prévention?
Alors peut-être lire le livre, de faire lire le livre. Alors les ados, on me dit, lisent pas, que les parents lisent le livre et expliquent, ou sinon ils fassent lire le livre à leurs enfants, ça peut être bien. Et puis après, il faut peut-être sensibiliser, en parler avec le médecin traitant, penser aux préservatifs, penser à la digue dentaire, j'en parlais tout à l'heure, parce qu'on parle...
Alors, on revient sur la digue dentaire, parce que ça, c'est... ça va peut-être parler aux jeunes, parce qu'ils aiment bien toutes ces histoires de digue dentaire.
Donc, en fait, c'est souvent, on parle de se protéger lorsqu'il y a une fellation, c'est bien, mais aujourd'hui, le sexe oral, c'est pas que la fellation, c'est aussi le cunnilingus, et c'est bien aussi que le partenaire qui procède à l'acte puisse lui-même se protéger. Et la digue dentaire, comme son nom l'indique, donc c'est un carré en silicone que le dentiste utilise, et en fait ça a été dévié de son utilisation initiale, et ça permet effectivement de faire un cunnilingus, on va dire, de façon protégée. Donc informez-vous les jeunes et les moins jeunes, parce que on en parlait hors antenne, mais c'est vrai que les plus mûrs pensent être aussi
les seniors qui pensent être passés au travers de toutes les vagues là. C'est vrai, c'est qu'ils se retrouvent célibataires ou.
Justement, vous parliez de prévention. La prévention, c'est prendre les éléments de changements sociétaux. Donc ça veut dire que quand on fait de la prévention, il faut s'enquérir, me semble-t-il, et c'est là où, à mon sens, les pouvoirs publics sont complètement décalés, il faut prendre en connaissance de cause
tous les changements, parce que nos jeunes sont très très en avance sur au niveau informatif, ils ne pêchent pas au niveau de l'information, hein. Mais il faut prendre également la dimension culturelle, la dimension religieuse, la dimension ethnique. Tous ces éléments-là doivent être, et linguistique, doit être incorporé dans la prévention.
On remercie ce matin le docteur Ramon Bassagagna d'avoir été avec nous. Anaïs Gomez, merci d'avoir été sur ce plateau.
Avec plaisir.
On rappelle le titre de votre livre, Nadia.
Oui, donc les infections sexuellement transmissibles, comme on ne vous en a jamais parlé.
C'est quoi ce
Vous m'avez pris de court.
Ah, c'est pour ça. Ah, vous m'avez fait peur. Bien, vous réécouterez l'émission podcast et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Vous passez une très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.